Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Sous nos assurances, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Il y a tout juste 10 jours, le président irlandais a promulgué la loi légalisant l'avortement dans son pays. L'aboutissement d'une longue lutte et du vote historique de mai dernier au référendum abrogeant une interdiction inscrite dans la constitution de ce pays à majorité catholique. En août dernier, en Argentine, après des mois de mobilisation et d'espoir, la dépénalisation a buté sur le refus des sénateurs. Aujourd'hui, seuls 55% de l'ensemble des avortements sont pratiqués dans des conditions sûres dans le monde, 14 le sont dans des conditions dangereuses, avec des risques d'hémorragie, de lésions, d'infections, de graves complications qui seraient responsables de 13% des décès maternels dans le monde, d'après l'OMS. Et pour ce qui est de l'Afrique, seuls 4 pays ont légalisé l'avortement. L'interdiction reste donc la norme sur le continent, en dépit de l'impact qu'ont ces lois sur la santé des femmes. Aujourd'hui, d'après l'OMS, 6 millions d'avortements sont pratiqués sur le continent africain, mais 3% seulement dans des conditions sécurisées. Interdire l'avortement, ce n'est pas l'empêcher, c'est contraindre les femmes qui souhaitent interrompre une grossesse non désirée à confier leur corps, à confier leur vie à des personnes qui n'ont souvent ni la compétence ni les moyens matériels en termes d'hygiène notamment pour le faire. Interdire l'avortement, c'est condamner les femmes à avorter dans la clandestinité et parfois aussi dans la détresse. Journée mondiale de dépénalisation de l'avortement, des lois qui ont un impact direct sur la santé des femmes. Pour en parler avec nous, docteur Philippe Fauché, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gynécologue obstétricien, l'hôpital Armand Trousseau à Paris. Au cours de l'émission, nous nous arrêterons dans 3 régions du monde. À Dublin, nous retrouverons le correspondant de RFI, Julien Lagache, alors que l'Irlande a dit oui à l'avortement au mois de mai. À Buenos Aires, nous rejoindrons Audevilliers-Moriamé, la loi bloquée par le Sénat argentin, mais la mobilisation, elle continue. Et puis, dernière étape en Afrique de l'Ouest, où Igor Strauss a rencontré à Soubré, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, femmes humanitaires, responsables locaux, militants qui, sur le terrain, essaient de faire bouger les choses. Nous retrouverons en fin d'émission à New York Stéphane Besançon, directeur de l'ONG Santé Diabète, expert dans le cadre de la 3e réunion de haut niveau consacrée aux maladies non transmissibles. Elle s'est tenue hier au siège des Nations Unies, réunion qui débouche sur une déclaration assortie d'engagement.
Priorité santé sur RFI.
C'est une question de société soumise aux pressions des religieux, aux pressions des politiques, questions éthiques, questions juridiques, questions d'égalité, bien sûr. Mais on va le voir au cours de cette émission, c'est pour nous un enjeu de santé publique. Docteur Philippe Fauché, est-ce que l'on dispose de chiffres globaux aujourd'hui sur la dépénalisation de l'avortement dans le monde? Est-ce qu'il y a en quelque sorte une carte de cette planète, là où il est possible de le faire en sécurité, et là où les femmes sont contraintes de le faire dans la clandestinité?
L'OMS a d'ailleurs fait un travail très intéressant là-dessus, qui vient d'être publié assez récemment, sur une cartographie très précise de tous les pays dans le monde, avec l'état des législations, l'état des pratiques. Donc on a des informations, effectivement, pour chaque pays, sur les lois, qui sont très différentes en fonction de chaque pays, et sur la pratique ou pas de l'avortement. Oui, on a des données.
Avec l'Afrique, justement, la plupart des pays, c'est l'interdiction, pénalisation, même chose pour l'Amérique du Sud, l'Asie du Sud-Est. D'après l'OMS, seuls 55% des avortements sont sécurisés dans le monde. Ça veut dire que près de la moitié, docteur Fauché, ne le sont pas. Justement, on va définir un avortement sécurisé. Qu'est-ce que c'est ?
Un avortement sécurisé, c'est un avortement qui est pratiqué dans des bonnes conditions sanitaires, suivant les règles de bonne pratique de la médecine, que ce soit par méthode médicamenteuse, où on donne les bons médicaments aux bonnes doses et au bon moment, et quand c'est par méthode instrumentale, avec les bonnes techniques, avec la bonne antibiothérapie, les bonnes précautions d'asepsie. Donc la définition d'un avortement sécurisé, c'est cela. Et quand c'est clandestin, on peut dire que ça ne respecte pas la plupart des règles qui existent.
Alors, on a des descriptions de ce qui se passe pour ces femmes qui avortent dans la clandestinité, parfois des images absolument terribles. On oui. peut justement décrire ce qui se passe, parce que c'est une chose de dire avortement clandestin, non sécurisé, dangereux, mais de comprendre ce à quoi sont vraiment confrontées ces femmes qui sont contraintes d'avorter dans la clandestinité.
Oui, il y a régulièrement des publications d'ailleurs scientifiques médicales sur des complications, les complications des avortements clandestins. Alors, c'est essentiellement les complications hémorragiques ou les complications chirurgicales, avec parfois des lésions intestinales très très sévères ou des choses comme ça. Et c'est publié régulièrement dans la littérature scientifique. Oui, on a des connaissances là-dessus, mais c'est pas parce qu'on publie des données sur la gravité des complications des avortements clandestins que ça fait bouger les législations dans les pays où l'avortement est interdit. C'est ça qui est très dommage, en fait.
Justement, cette législation, on comprend bien qu'on est au carrefour entre le droit et la médecine. Cette dépénalisation de l'IVG, c'est vraiment une condition pour sécuriser les avortements.
Bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que même dans les pays où l'avortement est interdit, il y a quand même des interruptions de grossesse qui sont faites de façon sécurisée, parce qu'il y a quand même des médecins qui pratiquent des interruptions volontaires des interruptions de grossesse, même si de façon sécurisée. Mais c'est là où il y a, à mon avis, le principal problème dans la pénalisation de l'avortement, c'est qu'il y a une inégalité fondamentale entre les femmes qui ont les moyens de payer des médecins ou des praticiens qui peuvent faire les avortements dans de bonnes conditions, même si c'est interdit, et puis celles qui n'ont pas l'argent pour payer, et c'est généralement les plus pauvres, les plus jeunes, qui payent le plus lourd tribut à ces complications.
Alors, en termes justement de pénalisation ou de dépénalisation, docteur Philippe Fauché, il y a des nuances, des restrictions, notamment en ce qui concerne les motivations de l'avortement. Pourquoi une femme avorte, dans certains cas c'est autorisé, détresse de la maman, danger pour le bébé. Comment justement ces pays choisissent d'ouvrir ou non ce champ de l'avortement légal?
Bon, ce qu'il faut, les meilleures lois qui existent sur l'avortement, c'est quand l'avortement est demandé par la femme sans aucune condition. C'est-à-dire que le médecin n'a pas à imposer des critères qui font que l'avortement est recevable ou non. Alors, il y a quelques lois qui, par exemple, la loi anglaise est un peu particulière parce que c'est pas sur demande de la femme, c'est en fonction de conditions socio-économiques, mais en pratique, l'avortement est toujours accepté. Dans les pays où l'avortement est interdit, alors soit il est complètement interdit dans aucune circonstance, soit il est interdit quand la santé de la mère est en danger, et ça, c'est un critère qui est vraiment, j'ai envie de dire hypocrite, parce que c'est extrêmement difficile de savoir quand une grossesse peut mettre en jeu la santé de la mère. En gros, on peut le savoir que quand la femme risque de mourir, donc on va pas attendre qu'une femme risque de mourir pour lui dire qu'elle peut pratiquer un avortement. Donc ces pays qui disent on peut faire quand même des avortements si la santé de la mère risque d'être en danger, c'est en gros des pays qui interdisent totalement l'avortement.
Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, docteur Philippe Fauché, que la plupart des pays qui interdisent l'avortement, ce sont également ceux où la planification familiale, où l'accès à la contraception sont les plus limités?
Je mettrais pas ça complètement sur le même. Par exemple, il suffit de prendre l'exemple de la Pologne. La Pologne, qui est un pays dit développé, où l'accès à la contraception est tout à fait correct, a une législation extrêmement restrictive, et c'était le cas aussi pour l'Irlande, où les moyens de contraceptifs sont par contre autorisés. Donc
ça dépend des
régions. Et vraiment, l'avortement, c'est quand même toujours quelque chose à part. Je sais que dans des doctrines religieuses, et l'avortement et la contraception ne sont pas acceptables, mais en pratique, il y a quand même une grosse différence entre les deux. Je pense que maintenant, dans beaucoup de sociétés, la contraception est quand même en pratique acceptée, alors que l'avortement est quand même, dans beaucoup de cas, aussi toujours
proscrit,
mal vu, condamné, vu d'une mauvaise façon. Il y a une espèce de façon de voir les choses où la contraception, ce serait quelque chose de bien, de bénéfique, de finalement heureux, et l'avortement, ce serait le drame, l'horreur, la douleur, etc. Une façon un peu manichéenne de voir les choses.
On le voit dans le vocabulaire aussi employé.
On le voit dans le vocabulaire. Vous ne direz pas qu'une femme subit la prise de la pilule, alors que vous avez beaucoup de femmes qui disent « oui, j'ai subi un avortement ». Donc c'est quand même différent. Je pense qu'on ne peut pas mettre l'avortement et la contraception sur le même pied, malheureusement.
Vous restez avec nous, docteur Philippe Fauché. On part tout de suite pour l'Irlande, pour Dublin, où on va retrouver Julien Lagache.
Priorité santé sur RFI.
On le disait, un référendum historique du mois de mai en Irlande. Le Parlement irlandais a officiellement voté il y a 10 jours seulement l'abrogation du 8e amendement, ce qui ouvre la voie à une législation qui encadre l'avortement. Et Julien Lagache, ça met un terme à une longue et totale interdiction de cette pratique dans ce pays d'Europe.
Oui, et ce régime restrictif était en place depuis 1861, mais la crainte d'un contournement de la loi a mené peu à peu, un siècle plus tard, à inscrire cette interdiction dans la Constitution. C'est le fameux 8e amendement que vous évoquiez, approuvé par référendum à 67% en 1983 sous l'influence de l'Église. Depuis lors, plusieurs faits divers ont remis en question ce régime irlandais, d'abord avec un autre référendum en 1992 qui a permis la dépénalisation de l'avortement à l'étranger, d'autres tentatives d'assouplissement ont ensuite échoué jusqu'à la loi de 2013 qui a légalisé l'avortement quand la grossesse représentait un risque mortel pour la mère sous la pression de l'opinion après le scandale suscité par la mort d'une jeune femme à qui l'on avait refusé une IVG. Et cette mobilisation a ensuite grossi jusqu'à pousser le gouvernement à organiser le référendum du 25 mai dernier qui doit donc aboutir à légaliser l'avortement sans condition jusqu'à 12 semaines de grossesse et jusqu'à 6 mois pour raison médicale.
Alors que risquaient ces femmes, hein, Julien, sur le plan pénal avant la libéralisation de l'avortement?
Il faut dire que la loi est longtemps restée floue. Elle se contentait d'interdire l'avortement et ce n'est qu'en 2013 que l'Irlande a établi une peine de prison maximale de 14 ans pour toute femme qui chercherait à se procurer un avortement ou toute personne qui l'aiderait à y accéder. Toutefois, on peut rappeler que personne n'a jamais été condamné jusqu'ici.
Alors, on le soulignait tout à l'heure avec notre invité en studio, avec le docteur Philippe Fauché, même si une femme n'a pas le droit d'avorter souvent, eh bien, elle le fait quand même. Comment elles faisaient ces Irlandaises jusqu'à ce vote du printemps? Quelle solution avait-elle quand elle souhaitait mettre fin à une grossesse non désirée?
Eh bien, avec la dépénalisation de l'avortement à l'étranger, l'option la plus courante était et reste encore aujourd'hui de faire la traversée, en particulier en Grande-Bretagne. On sait par exemple qu'en 2017, au moins 3000 Irlandaises se sont encore rendues dans des cliniques en Angleterre ou au Pays de Galles, un chiffre qui a diminué de moitié depuis les années 2000, tandis que la commande par Internet de pilules abortives a, elle, progressé ces dernières années. En 2017, près de 1500 femmes auraient eu recours à ce moyen pour induire une IVG, selon les chiffres officiels de Dublin. Sachant quand même que des centaines de cachets sont aussi régulièrement saisis par les douanes à la frontière.
Alors qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? De quelles données disposez-vous, Julien Lagache, en ce qui concerne l'avortement en Irlande?
D'après des chiffres présentés par le Collège irlandais des médecins généralistes, on dénombrerait 13% de grossesses accidentelles, parmi lesquelles une sur cinq se terminerait par une IVG. Les avortements légaux, eux, sont marginaux, une quinzaine en 2017. En fait, les principales données disponibles viennent justement d'Angleterre, où les statistiques officielles montrent que près d'une Irlandaise sur deux qui se présente est âgée entre 20 et 30 ans. Une grande majorité sollicite une IVG pour la première fois et se situe entre la troisième et la neuvième semaine de grossesse. Et selon une étude récente qui porte sur le recours à la pilule abortive, on note que 2 Irlandaises sur 3 étaient déjà mères lorsqu'elles y ont eu recours, tandis que 54% des femmes interrogées affirmaient utiliser un moyen de contraception.
Alors ce sera ma dernière question, hein, Julien. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce glissement, ce changement dans la loi, l'issue positive du référendum dans un pays, hein, l'Irlande, connu pour l'énorme influence qu'a eu jusque-là l'Église catholique?
Eh bien justement, cette influence a beaucoup diminué, notamment à la suite des scandales de pédophilie qui ont sévèrement endommagé l'image de l'institution. Beaucoup de gens ont pris leur distance avec le clergé qu'on appellera officiel. Il y a en fait une séparation de plus en plus nette entre la foi et les convictions personnelles, notamment du fait que la société irlandaise s'est fortement ouverte avec le boom économique des années 90 et 2000, jusqu'en 2015, quand le pays a dit oui à 62%, encore par référendum, au mariage homosexuel, ce qui tend à suggérer une tendance favorable à l'approbation des nouvelles mœurs.
Merci beaucoup Julien Lagache. Je rappelle que vous êtes le correspondant de RFI à Dublin en Irlande. Des lois qui changent, on l'entend dans l'actualité, dans les journaux. En France, c'est en 1975 que la loi a été promulguée, le texte porté par Simone Veil. D'après l'ordre des sages-femmes, docteur Philippe Fauché, l'accès à l'IVG se complexifie pour les femmes en France. Est-ce que vous partagez ce point de vue?
Je pense, enfin, je dirais pas, il se complexifie parce qu'il n'y a pas d'évolution défavorable en France. Quand on regarde ce qui se passe dans d'autres pays européens, où là, on peut être quand même plus inquiet. On peut dire que globalement, quand même en France, les choses ne sont pas si mauvaises que ça. Donc, je crois qu'il ne faut pas non plus
tout dramatiser, tout
exagérer l'accès. On a quand même eu dans les dernières années là des évolutions très favorables. Je pense notamment avec le gouvernement précédent, où il y a beaucoup de choses qui ont été faites quand même, avec des modifications législatives même qui ont été faites, la suppression du délai de réflexion qui est extrêmement importante, et la suppression même de la notion de détresse qui était inscrite dans la loi et qui tendait quand même à culpabiliser les femmes et à dramatiser toujours l'avortement. Il y a eu la possibilité offerte en France de pouvoir pratiquer des avortements en dehors des hôpitaux par méthode instrumentale. C'était possible par méthode médicamenteuse, mais c'est désormais possible par méthode instrumentale.
Vous dites en dehors des hôpitaux, par exemple,
dans des centres de santé. Donc, on peut pas dire, je pense qu'en France, les choses se complexifient ou s'aggravent. Il y a toujours des difficultés d'accès à l'avortement. Il y a une inégalité, c'est-à-dire que en fonction de l'endroit où vous habitez, c'est ça qui n'est pas tout à fait normal, qui n'est pas normal du tout. En fonction de l'endroit où vous habitez, vous aurez plus ou moins de facilité à accéder à un avortement, et ça, évidemment, ce n'est pas normal.
Alors, ce matin ont été publiées par le ministère de la Santé les dernières statistiques qui concernent l'IVG en France. Ce qu'on voit, c'est que le nombre global reste assez stable.
Oui, ça fait des années que le nombre global d'IVG reste stable. Et encore, je pense ça masque aussi un phénomène qui, je pense qu'il aurait tendance à diminuer, parce que les femmes repoussent de plus en plus l'âge de leur première maternité. Donc en fait, elles sont exposées pendant beaucoup plus longtemps à un risque de grossesse non prévu. Et finalement, le nombre d'IVG reste stable. Donc malgré cette évolution on pourrait tendre à augmenter le nombre d'IVG, le nombre d'IVG reste stable. Ça veut dire que quand même, les femmes ne font pas n'importe quoi, que les femmes prennent des moyens contraceptifs, et d'ailleurs, on le sait, la majorité des femmes qui demandent une IVG ont un moyen de contraception qui ne s'est pas retrouvé efficace à ce moment-là précis.
Alors, du côté justement des méthodes de cet avortement, de cette interruption volontaire de grossesse, elles sont de plus en plus, docteur Philippe Fauché, médicamenteuses. C'est possible jusqu'à la 7e semaine de grossesse, vous m'interrompez si je me trompe. Ça veut dire quoi? On passe moins pour être trivial sur le billard, on prend davantage un médicament, on est suivi par une sage-femme ou au centre de planning familial, comment ça se passe?
Ce sont deux méthodes qui sont différentes. Il y en a une sur la méthode instrumentale, l'autre la méthode médicamenteuse, comme vous dites, jusqu'à 7 semaines de grossesse, donc 9 semaines depuis la date des dernières règles. Deux méthodes qui ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Il n'y a pas une méthode qui est supérieure à une autre. Nous, on est quand même très attentifs par le fait que le développement de l'IVG médicamenteuse, là, les derniers chiffres que vous citez font état de 67% des IVG qui sont faites par méthode médicamenteuse. Il faut savoir qu'il y a des pays comme par exemple l'Écosse ou les pays du Nord où ça monte jusqu'à 90%. Donc, on est quand même très attentif au fait que les femmes puissent quand même toujours garder le choix de la méthode et puissent toujours avoir accès à la méthode instrumentale. Parce que la méthode instrumentale est aussi une excellente méthode.
Comment ça se décide justement?
Alors on explique aux femmes les avantages et les inconvénients de chaque méthode. C'est-à-dire que, effectivement, prendre les médicaments, c'est faire une fausse couche. Faire une fausse couche, c'est quand même avoir mal au ventre, c'est quand même saigner, c'est quand même se retrouver quand même pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours à saigner. C'est être pas sûr à 100% de l'efficacité de la méthode, alors que la méthode instrumentale, c'est une méthode qui n'est pas douloureuse, c'est une méthode dont on est sûr de l'efficacité. Bon, bien sûr, c'est une intervention chirurgicale, qui peut être considérée comme un inconvénient. Donc voilà, il faut peser.
Ça
avec
veut dire
la
qu'aussi du début à la fin, docteur Fauché, on est sous la surveillance d'une équipe médicale et que ça se passe de A à Z.
Pour la méthode médicamenteuse?
Non, pour la méthode chirurgicale.
Ah oui, la méthode chirurgicale, vous êtes forcément dans un centre hospitalier ou peut-être un centre de santé. On espère que ça va se développer. Enfin, pour l'instant, c'est toujours un centre hospitalier ou une clinique, et vous êtes bien sûr sous surveillance. Mais ça peut se faire, il faut le savoir, ça peut se faire sous anesthésie générale. Donc là, vous êtes bien sûr plus surveillé. Mais là aussi, on est très attentif au fait que ça puisse toujours se faire sous anesthésie locale. Parce que l'anesthésie locale, c'est quelque chose de vraiment très simple. La femme peut arriver et repartir au bout d'une heure après avoir eu son interruption de grossesse.
Alors, autre région du monde, autre situation. On va partir maintenant pour l'Argentine. Pour vous retrouver en ligne de Buenos Aires, Audevilliers, Moriamé, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Alors on va commencer, Aude, par un petit retour en arrière sur ces derniers mois en Argentine, entre espoir et déception pour les partisans de la légalisation de l'IVG.
Oui, parce que cette année a été vraiment historique pour le mouvement en faveur de la légalisation de l'IVG. Pour vous donner une idée, c'est la première fois qu'une proposition de loi sur la question a dépassé le stade de la commission parlementaire. Alors ce texte qui proposait de légaliser l'IVG jusqu'à 14 semaines de grossesse a fait l'objet de très longs débats et a profondément divisé fonder la société argentine. Avant, le sujet était plutôt tabou dans un pays si catholique, le pays d'origine du pape François. Et tout d'un coup, on en parlait partout, en famille, à table, à l'école, au travail. Surtout les jeunes filles se sont vraiment emparées de ce combat. On a commencé à en voir de plus en plus qui portaient le foulard vert, le symbole de la lutte pour la légalisation. Alors en juin, les députés se sont prononcés en faveur du texte à une courte majorité, ce qui a relancé une immense vague d'espoir pour les pro-légalisations. Mais le 8 août, ou plutôt dans la nuit du 8 au 9 août, le Sénat s'est prononcé contre le texte de loi, ce qui a été un vrai coup dur pour le mouvement féministe, comme vous pouvez l'imaginer, puisqu'il n'était jamais passé aussi près du but.
Alors, Aude, est-ce qu'il existe des chiffres, des données sur le nombre d'avortements réalisés aujourd'hui en Argentine ?
Alors, selon les associations, il y aurait entre 300 000 et 500 000 IVG réalisés clandestinement chaque année. C'est un chiffre assez conséquent pour un pays de 44 millions d'habitants. À titre de comparaison, en France, où on a plus d'habitants, on compte environ 200 000 avortements, légaux, bien sûr, par an. En Argentine, à cause de ces avortements clandestins, les associations estiment qu'une cinquantaine de femmes meurent chaque année. C'est encore une fois un chiffre difficile de vérifier, mais dans tous les cas, ces avortements réalisés dans de mauvaises conditions constituent la principale cause de mortalité maternelle dans le pays. Côté avortement légaux, parce que oui, l'avortement est autorisé dans certaines conditions bien précises, en cas de viol ou si la grossesse présente un danger pour la santé de la femme enceinte, eh bien dans ces cas-là, on compte près de 2000 avortements par an selon le ministère de la Santé, un chiffre infime comparé à celui des avortements clandestins.
Alors quand les femmes ne peuvent pas avorter légalement, Oudvillier-Moriamé, comment font-elles lorsqu'elles ne veulent pas mener à terme leur grossesse ?
Eh bien, il y a les réseaux clandestins de militants qui se développent de plus en plus et qui procurent par exemple du misoprostol, une pilule abortive à celles qui le demandent. Pour le reste, ces avortements clandestins reflètent bien les inégalités profondes qui existent en Argentine, parce que les femmes qui en ont les moyens vont avorter dans des cliniques privées, cliniques qu'elles payent très cher pour leur discrétion, et les femmes issues des quartiers modestes, elles, font ça à l'ancienne, avec des cintre ou du persil, ce qui dégénère souvent en infection. Au moins 3 femmes sont mortes rien que le mois dernier à la suite d'avortements réalisés dans des conditions extrêmement précaires.
Et que risquent ces femmes qui se mettent donc hors la loi ?
Alors justement, sur le plan purement légal, elles ne risquent en fait pas grand-chose. L'IVG est presque dépénalisé de fait aujourd'hui, parce qu'il y a très peu de poursuites qui sont engagées contre des femmes ayant avorté ou contre le personnel médical qui les aurait aidées. Ça a été le cas auparavant, surtout dans les provinces les plus conservatrices du pays. À Tucumán, par exemple, dans le Nord, une jeune femme a été emprisonnée pendant 2 ans parce qu'elle avait été accusée d'avoir réalisé une IVG. Elle disait pourtant avoir subi une fausse couche. Elle a été libérée l'an dernier. Le plus grand risque, en fait, et on en a parlé plus tôt, c'est qu'en n'offrant pas de cadre légal, sûr et gratuit à ces avortements, on met en danger la vie des femmes argentines.
Alors, où en est la mobilisation, Aude ? Est-ce qu'il y a d'autres échéances où, pour l'instant, la question de la légalisation est enterrée ?
Alors, enterrer, ça ne risque pas, parce que le sujet a été mis au premier plan cette année, ce serait difficile de le renvoyer aux oubliettes. En revanche, il faudra sans doute du temps pour qu'une proposition de loi sur le sujet revienne devant le Congrès. L'an prochain, il y a des élections législatives et présidentielles en Argentine. On a donc peu de chances que les parlementaires aient le temps de traiter un projet de cette envergure avant 2020. Mais les militantes en faveur de l'IVG ne perdent pas espoir pour autant. Pour elles, 2018, c'était une première étape décisive. L'Argentine devra bien adopter tôt ou tard cette loi. Au niveau de l'Amérique latine, ce serait seulement le 4e pays à le faire, après Cuba, le Guyana et l'Uruguay. Alors il y a certaines militantes qui voudraient aller plus vite, par exemple en exigeant un référendum national sur la question l'an prochain, mais c'est un avis plutôt minoritaire. Et d'autres qui remettent directement en cause le rôle de l'Église dans la décision du Sénat de rejeter le texte de loi. L'Argentine connaît depuis quelques semaines un nombre record de personnes qui renoncent à leur appartenance à l'Église catholique. Et on voit de plus en plus d'Argentins qui arborent dans la rue, parfois en plus du foulard vert, un foulard orange symbolisant le combat pour la séparation entre l'Église et l'État.
Merci beaucoup, Oudvillier-Moriamé. Je rappelle que vous étiez en ligne de Buenos Aires.
RFI à Sao Tomé, 102.8 FM.
Et on vous retrouve en studio, docteur Philippe Fauché, gynécologue obstétricien à l'hôpital Armand Trousseau à Paris. Difficile de ne pas évoquer le tollé qui avait provoqué le président du syndicat national des gynécologues. Au début du mois, il avait assimilé l'IVG devant une caméra à, je cite, un homicide, fin de citation. Il s'appelle le docteur Bertrand de Rochambeau et il utilise d'ailleurs la clause de conscience dans la clinique où il exerce pour ne pas pratiquer d'avortement. Docteur Philippe Fauché, comment vous a fait réagir cette polémique ? On en avait beaucoup parlé en France il y a quelques semaines.
Écoutez, cette polémique, Elle a permis déjà de braquer les projecteurs sur l'IVG, donc pour moi c'est toujours quelque chose de satisfaisant de s'intéresser à ce sujet et de vérifier que l'accès à l'avortement en France est correct. Maintenant, les positions de ce médecin sont des positions personnelles, il a tout à fait le droit d'avoir ses positions, de penser ce qu'il pense et d'établir sa conscience personnelle. Je crois que le problème dans son cas à lui, c'est qu'il était en même temps président d'un syndicat des gynécologues et je crois qu'il a un peu mélangé les choses, et donc c'est pour ça qu'il y a eu cette polémique. On a plutôt repris le fait qu'il soit président de ce syndicat plutôt que sa position personnelle qui, en fait, après, le regarde.
Mais pour certains, quand même, cette clause de conscience, c'est une façon de se soustraire à la loi. Docteur Philippe Fauché, la ministre de la Santé a commandé un état des lieux sur l'accès réel à l'IVG. Pour vous, justement, il y a un rapport, ce choix de décider si oui ou non on pratique une IVG, c'est rester dans le cadre de la loi ?
Alors, on est quand même beaucoup à demander la suppression de la clause de conscience spécifique à l'interruption volontaire de grossesse parce que on considère qu'elle existe pour tous les actes médicaux et que en rajouter, si vous me permettez l'expression, une couche pour l'avortement spécifiquement et pour la stérilisation, donc à des faits qui concernent les droits reproductifs des femmes, on trouve que c'est un peu superfétatoire et que on pourrait très bien la supprimer. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Je viens de lire récemment un article d'un juriste qui considère qu'il faut maintenir quand même cette clause de conscience dans le cadre de l'IVG et que peut-être si on se mettait un jour à faire des choses sur l'euthanasie, il faudrait peut-être aussi mettre des clauses de conscience spécifiques pour l'euthanasie, qu'on ne peut pas se mettre derrière la clause de conscience générale pour tous les actes médicaux. Maintenant, effectivement, le fait de maintenir cette clause de conscience spécifique à l'IVG, ça conforte des médecins à refuser de faire des IVG sans finalement appliquer le reste de la loi qui est que quand on applique la clause de conscience, on doit immédiatement diriger la patiente vers un centre qui pratique les interruptions volontaires de grossesse. Donc voilà, il y a un débat là-dessus, je pense qu'il faut avoir. Je crois que la ministre n'est pas tout à fait favorable à la suppression de cette clause de conscience spécifique pour l'IVG. Bon,
elle attend des chiffres avant vraiment de s'exprimer sur ce fait.
Je pense que les chiffres vont être difficiles à obtenir parce qu'il n'y a pas de déclaration officielle, il n'y a pas de registre où on déclare si on fait part ou pas de la clause de conscience. Il faut savoir que, à ma connaissance et de ce que je sais de ce qui se pratique, alors je parle du secteur hospitalier, mais il faut savoir que le secteur hospitalier en France assume à peu près 80% des IVG, hein, donc après ce qui se passe dans le secteur privé c'est autre chose, c'est que la clause de conscience est quand même relativement rarement
mise en avant,
c'est plus des difficultés d'accès des choses, ou alors des prises en charge qui sont pas liées complètement à la clause de conscience, mais par exemple, vous voyez, ce sont des médecins qui ou des centres qui disent nous on fait les IVG par exemple jusqu'à 12 semaines d'aménorrhée, mais on les fait pas entre 12 et 14 semaines d'aménorrhée, alors que la loi autorise d'aller jusqu'à 14 semaines. Donc c'est pas une vraie clause de conscience, c'est une façon finalement de, ou alors on prend les femmes qui habitent dans la région, mais dans la ville, mais qui n'habitent pas un peu plus loin. Enfin, vous voyez, c'est des restrictions d'accès plus que des applications nettes de clause de conscience en disant moi je ne pratique jamais d'IVG, je n'en pratiquerai jamais.
Docteur Philippe Fauché, on va maintenant rejoindre l'Afrique de l'Ouest.
Priorité santé sur RFI.
Alors, on vient de voir ces différents cas de figure, dépénalisation, mobilisation, espoir, déçu. Dans d'autres régions du monde, l'interdiction est la règle. En Afrique, on le disait tout à l'heure, 4 pays ont dépénalisé l'IVG, la Tunisie, l'Afrique du Sud, le Cap-Vert et le Mozambique. 50 pays l'interdisent ou dans certains cas, le conditionnent strictement au danger encouru par la mère ou l'enfant à naître. Cela n'empêche pas 12% des grossesses, selon l'Institut Guttmacher, un institut qui justement fait des statistiques sur les avortements, sur la natalité. 12% des grossesses de déboucher sur un avortement. Et parmi les États qui l'interdisent, il y a la Côte d'Ivoire.
Bonjour. Alors, il y a quoi sur votre pancarte, mademoiselle ?
Écoutez les jeunes et les adolescents sans les juger, c'est les protéger.
C'est important, ça ?
Oui, c'est important.
Igor Strauss s'est rendu pour Priorité Santé mercredi dernier à Soubré, c'est dans la région de la Nawa, dans le sud-ouest ivoirien. L'ONG Médecins du Monde organisait là-bas un défilé, on entend la fanfare, pour sensibiliser la population aux bienfaits de la contraception. Priorité dans cette zone reculée du pays où moins de 9% des jeunes filles ont accès à un moyen contraceptif. Du coup, les grossesses non désirées sont fréquentes. Dans 50% des cas, les jeunes filles ont recours à un avortement clandestin. Face à ce constat, des ONG comme Médecins du Monde, certains acteurs de la société civile militent pour que l'État ivoirien mette en application le protocole de Maputo. Il permet d'avorter légalement lorsque la femme enceinte est en danger, victime de viol ou que l'enfant présente un risque de malformation. Un combat difficile en raison des pressions sociales, des pressions religieuses, du manque d'informations aussi, source de fausses croyances. En Côte d'Ivoire, difficile acceptation de l'avortement. Reportage signé Igor Strauss.
J'ai 16 ans. J'étais enceinte, mais j'ai fait l'avortement.
Et comment tu as découvert que tu étais enceinte?
Que j'allais faire test de grossesse, mon Dieu, je suis enceinte. Je suis partie à l'hôpital. Que je suis arrivée là-bas, j'ai trouvé la sage-femme là-bas. Je me suis dit que tu as un médicament pour avorter. Elle m'a dit, ici on ne fait pas. Quand je suis partie à la maison, mon portable a commencé à sonner. Il veut. Le monsieur a...
Ah, c'est monsieur qui est assis à côté.
J'ai dit, qui vous a donné mon numéro? Il dit, c'est la sage-femme là. Il dit, le gars s'est croisé au carrefour. On est parti dans leur bureau, au centre social. Bah, il m'a donné beaucoup de conseils, en tout cas. En ce temps-là, il a pris le médicament là. On allait faire échographie. On dit, c'est gâté. Ils sont allés laver dans le ventre là. Et puis, ils ont acheté beaucoup de médicaments pour moi.
Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu ressens?
Ça me fait mal. Je ne vois quand il dort là. Quand il pense à ça, là, ça me fait mal.
Il y a des personnes à qui tu peux en parler, qui peuvent t'aider psychologiquement?
C'est le monsieur là seulement. Avec la sale femme là.
Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur.
Et c'est vous dont la jeune fille parlait? Est-ce que vous pouvez vous présenter tout simplement?
Oui, moi c'est monsieur Assi Yapi Anisiza. Je suis éducateur préscolaire. Je suis agent au centre social de Miyagi.
D'abord, très concrètement, elle nous expliquait que la sage-femme n'avait pas voulu procéder à l'avortement. Comment vous, personnellement, vous avez pu intercéder et faire en sorte que l'avortement soit possible?
Ouais, il faut dire que déjà, elle a déjà utilisé les comprimés qu'elle a achetés elle-même dans le marché, qu'elle a déjà avalé. Et donc, ça a pris déjà un coup sur la grossesse. Et donc, j'ai pu vraiment m'entretenir avec elle pour qu'elle puisse me dire la vérité. Et donc, nous sommes allés faire une échographie. Et c'est là que l'échographie nous a fait savoir que la grossesse a été déjà touchée. Et il faut faire lavage pour que vraiment elle puisse être rassurée. Puisque déjà, ça commençait à s'infecter.
Donc finalement, la vie de cette jeune fille était vraiment en danger.
Justement, sa vie était en danger.
Alors, est-ce que ces cas sont fréquents? Et qu'en est-il du suivi psychologique?
Il faut dire que les avortements sont vraiment répétés. Et ce n'est pas tous les cas que nous arrivons à mettre la main dessus. Parce que les filles le font de manière discrète. Et c'est les cas vraiment qui passent au niveau de l'hôpital qu'on nous refait. Et quand nous on fait la référence, nous nous faisons le suivi. Nous apportons l'aide d'abord psychologique et sociale. Nous faisons des visites à domicile pour pouvoir vraiment les maintenir sur le cap.
Est-ce que les décès suite aux avortements clandestins sont fréquents?
Les décès sont fréquents, surtout en milieu scolaire au niveau de Miyagi. Les décès sont fréquents et Dieu merci, la sensibilisation et la mobilisation a permis vraiment de revenir à un niveau où cette année on n'a pas eu un cas de décès concernant l'avortement.
Je suis Madame Oupo Bernadette, présidente de OFACI, Organisation des femmes actives de Côte d'Ivoire, et coordonnatrice de Namani, qui veut dire prenons conscience. Au niveau de notre ville, nous avons beaucoup de problèmes d'avortement, vraiment beaucoup, parce que au niveau de la ville, il n'y a pas d'internat. Et les parents qui sont dans les villages, quand ils viennent mettre les enfants à l'école, ils sont obligés de prendre une chambre, soit le garçon et la fille sont ensemble parce qu'ils se disent que, étant dans le campement, ils sont des frères et sœurs. Or, en ville, c'est tout autre chose.
Il y a la promiscuité.
Merci beaucoup.
Le désir sexuel.
C'est ça. Et c'est comme ça que, bon, souvent quand il y a des grossesses, ils ne vont pas directement à l'hôpital, mais entre eux, ils peuvent voir les matrones et autres là pour pouvoir se faire avorter.
Si on met de côté le poids de la religion, vous, en tant que femme, connaissant le contexte ici à Soubré, est-ce que dans certains cas, quand la vie de la jeune fille est en danger, quand il y a eu viol, est-ce que vous pourriez être favorable à l'avortement?
Dans ce cas précis, oui. Parce que nous ne voulons pas la mort Nous voulons que les enfants vivent pour continuer leur vie. C'est en cela que nous faisons du plaidoyer. On est obligé donc de demander à nos autorités religieuses d'accepter que les enfants se fassent avorter, mais au niveau de l'hôpital.
Bonjour, je suis Florence Conny Kouadio, coordonnatrice du site de Médecins du Monde à Soubry. Médecins du Monde avait fait une étude auprès des adolescents et des jeunes des lycées et collèges par lesquels nous travaillons, et donc sur l'échantillon d'environ 500 adolescentes que nous avons questionnées, on s'est aperçu que pour celles qui avaient déjà contracté une grossesse, 75% des cas se terminaient par un avortement. C'est assez énorme, ça montre un peu aussi l'ampleur du phénomène.
Alors, quelle est la particularité de cette région, de la région ici de Soubré? Est-ce que ça reflète la situation globale en Côte d'Ivoire?
L'une des particularités de la région de Soubré, c'est une région fortement agricole, et donc la majorité des élèves qui viennent pour être scolarisés au secondaire, qui vivent seuls, et très souvent qui se retrouvent sans beaucoup de moyens financiers pour se prendre en charge. Donc il y a souvent des cas où les jeunes filles sont souvent amenées à avoir peut-être des rapports avec des personnes, ne serait-ce que pour manger ou même pour d'autres besoins.
Dans ce contexte-là, est-ce qu'il vous semble urgent de légaliser pleinement l'avortement ?
Je dirais que par rapport au protocole de Maputo que l'État ivoirien a signé et ratifié, il faut qu'on en arrive vraiment à leur application.
Rappelez-nous le protocole, c'est-à-dire élargir la possibilité d'avorter, pas uniquement quand les jours de la maman sont en danger, c'est ça ?
Oui, il y a également les cas de viol, les cas d'inceste, les cas de santé même du fœtus, c'est-à-dire si le fœtus a une malformation. Et enfin, il y a la santé mentale. Donc, nous avons au niveau du Médecins du Monde accompagné ce processus de révision de la loi et le test est encore au niveau du Conseil de gouvernement, mais on n'a pas encore abouti.
Est-ce que vous avez l'impression d'être soutenu par les autorités au plus haut niveau ou est-ce que c'est un sujet trop délicat ?
Il y a eu un engagement fort du gouvernement avec la volonté de repositionner la planification familiale. Donc je pense quand même qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites.
Mais ça ne va pas assez vite malheureusement.
Oui, on dirait que ça ne va pas assez vite. Mais aussi, il faut dire que nous venons d'assez loin quand même. Quand on laissait le taux de mortalité maternelle était quand même, il y a quelques années, de 645. Nous sommes à 614, il y a quand même des améliorations. Donc les choses sont en train de se mettre en marche et je pense que les choses vont aller de l'avant.
La grossesse en milieu scolaire et la grossesse indésirée constituent un fléau qui menace la vie et l'avenir de nos jeunes filles. Alors, les autorités ont décidé de prendre le taureau par les cornes en instaurant la célébration de cette journée en vue d'une meilleure accessibilité aux produits de contraception en Côte d'Ivoire et dans la région de la Nawa. Mesdames et messieurs, pour la célébration de cette journée, nous avons avec nous le secrétaire général de la préfecture, M. Thibaut Bonaventure.
L'avortement, légalement, c'est autorisé avec sous la caution d'un praticien. Cependant, au plan social, c'est difficilement accepté. Vous savez que dans ce milieu, il y a beaucoup de croyants, ce qui fait qu'il y a des freins à cela. Mais il faudrait aussi une mutation de la société et qui implique des actions comme celles que nous avons vécues ce matin pour promouvoir la contraception, bon, expliquer, vulgariser. Ça commence à venir.
Vous parliez de changer les mentalités, on sait que c'est long. À côté de ça, les chiffres sont là, éloquents, ils parlent d'eux-mêmes. Un taux de mortalité maternelle de 614 femmes qui décèdent pour 100 000 naissances vivantes. Et 15% de ces décès sont liés à des avortements clandestins. Est-ce que ça ne suffit pas à faire changer les mentalités et inciter les politiques à en faire davantage?
C'est pour ça que nous faisons le plaidoyer auprès des élus pour que nous ayons suffisamment de moyens.
Mais qu'est-ce que vous pouvez faire quand le seul gynécologue de la région de Soubré, donc une ville de 400 000 habitants, refuse de procéder à des avortements, même si les familles y ont droit, par conviction religieuse? Ça pose quand même un sérieux problème, ça.
Ça doit poser problème. Ça fait partie de la sensibilisation. Mais je pense qu'il faut d'abord amener les populations à s'approprier le concept des produits contraceptifs. Mais sinon, il est un peu difficile d'emblée, tout de go, de dire, bon, mais autoriser l'avortement, ça va créer des zones de choc parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît la loi, qui se lit la loi. C'est pourquoi je dis qu'il faut d'abord en amont sensibiliser sur la contraception, promouvoir les produits contraceptifs.
Je me nomme Dupo Israël Griffin. Je suis en classe de 3e 1 au collège Modène de Soubry. J'ai 12 ans.
Alors toi, tu es ambassadrice pour...
la santé sexuelle et reproductive des jeunes.
Est-ce que vous parlez un petit peu de sexualité, de reproduction en classe?
Bon, ça se fait pas. Quand les professeurs viennent, notre professeur SVT, deux fois, ils mettent dans des petites causeries et puis ils nous donnent des conseils. À part ça, concrètement, on ne parle pas de sexualité à l'école.
Et selon toi, c'est important de parler de ça, de sexualité?
Oui, c'est important parce que quand on parle de sexualité, ça aide beaucoup de jeunes filles à ne pas tomber dans le piège.
Toi, qu'est-ce que tu attends des gouvernants ici en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon toi?
Bon, il faudrait dire au gouvernement d'abord même de légaliser l'avortement. Et puis aussi mettre dans les leçons au moins des cours où on pourra parler de sexualité aux élèves parce que c'est vraiment très très important.
Et ça, tu crois qu'on y arrivera un jour?
C'est très compliqué parce que les parents n'acceptent même pas qu'on parle de sexualité. Parce que eux, ils se disent que la fille doit être vierge jusqu'au mariage. Donc, on n'a même pas le droit de parler de sexualité avec les enfants. Eux, ils se disent, s'ils parlent de sexualité avec leur enfant, ça pourra l'emmener à aller avoir des rapports sexuels avec un jeune homme. Donc, ils prennent la sexualité comme un sujet tabou. Mais moi, je dis que les parents doivent arrêter ça. Parce que si une fille n'a pas d'informations sur la sexualité, quand tu vas le demander à d'autres camarades qui n'ont pas plus d'informations, elle va avoir de mauvais conseils et ça va l'emmener à choper une grossesse tôt ou tard.
Non, toi, tu m'as l'air très éveillée sur le sujet. Tu connais bien, tu as bien travaillé ton sujet.
Bon, j'ai improvisé, mais c'est ce que je pense à l'intérieur de moi-même que je viens d'exprimer.
Reportage d'Igor Strauss à Soubré avec cette extraordinaire jeune porte-parole. C'était donc dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. On va revenir à une information médicale très importante, docteur Philippe... docteur Philippe Fauché. Cette question, quand une jeune fille, on entendait tout à l'heure cette jeune fille en détresse, qui disait qu'elle avait souffert, c'est quoi précisément les symptômes quand une jeune fille a subi un avortement non sécurisé et qu'elle dit quelque chose se passe mal, quand est-ce qu'elle doit consulter?
Alors, plusieurs symptômes. De la fièvre qui persiste, des douleurs qui deviennent de plus en plus fortes et qui sont permanentes, pas des douleurs comme des douleurs de règles ou des petites contractions, des douleurs permanentes, des saignements qui sont abondants. Pour savoir quand est-ce que c'est abondant, il faut compter le nombre de serviettes qu'on met pour se protéger. Quand c'est plus que 2 serviettes par heure pendant plus de 2 heures, que la serviette est pleine de sang rouge, ça veut dire que c'est une hémorragie et ça veut dire qu'il faut aller consulter rapidement. Et enfin, s'il y a des gros vertiges, des pertes de connaissances, des malaises, là aussi, ça peut être un signe d'hémorragie interne et il faut aller tout de suite consulter. Sachez qu'à l'hôpital, le médecin doit vous prendre en charge parce que c'est une complication, c'est une menace pour la vie et donc vous serez soigné. Et donc, il faut absolument aller à l'hôpital, vous ne serez pas rejeté pour...
Docteur Fauché, même si l'avortement est interdit dans un pays, l'hôpital, le médecin, doit soigner la personne qui a subi.
Oui,
et ça, c'est important de le savoir parce que certaines jeunes filles peuvent avoir honte ou dire « je vais être poursuivie parce que j'ai fait ça ». Non, le médecin va s'occuper d'elle.
Bon, là, on a eu l'exemple de l'Afrique, mais dans les hôpitaux en Afrique, un médecin qui reçoit une femme qui a des complications d'un avortement clandestin, la prend en charge, bien évidemment.
Conclusion, dernier mot de cet échange, de ce débat, docteur Philippe Fauché, est-ce qu'on va aujourd'hui vers davantage de prohibition ou, à l'inverse, une extension des droits des femmes?
Quand on voit l'exemple de l'Irlande, l'Argentine où ça a failli arriver, j'ai l'impression quand même qu'on peut être optimiste pour l'avenir, mais ça ne veut pas dire qu'il faut attendre que ça arrive tout seul. Je pense qu'il faut continuer, que les femmes et les hommes aussi doivent continuer la lutte pour arriver à obtenir une légalisation de l'avortement dans les pays dans lesquels vous habitez.
Merci beaucoup pour cet échange, docteur Philippe Fauché. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricien à l'hôpital Armand Trousseau à Paris. C'était hier à New York, c'est au siège des Nations Unies que s'est tenue la 3e réunion de haut niveau consacrée aux maladies non transmissibles. Sur place, une soixantaine de chefs d'État et de gouvernement qui ont pu entendre les comptes rendus des commissions d'experts et des membres de la société civile. Alors, au nombre justement de ces membres de la commission société civile de l'OMS, hein, de l'Organisation mondiale de la santé, une voix que l'on connaît bien, à Priorité Santé, Stéphane Besançon, bonjour.
Bonjour Caroline.
Stéphane Besançon, directeur de l'ONG Santé Diabète. On va d'abord avec vous, si vous le voulez bien, revenir sur l'esprit général de cette réunion, sur son objectif.
Alors, en 2011, une résolution a été adoptée aux Nations Unies sur les maladies non transmissibles et tous les trois ans maintenant, il y a un sommet de haut niveau qui permet de faire le point des avancées qu'il y a eu ou des non-avancées et puis surtout d'adopter des nouvelles mesures pour aller plus loin dans la lutte sur les maladies non transmissibles. Et c'est le cas de la déclaration qui a été adoptée hier par les chefs d'État pour tenter d'aller plus loin et de prendre des mesures fortes pour vraiment combattre ce fléau maintenant qui est devenu l'ensemble du paquet qu'on met dans les maladies non transmissibles, le diabète, les maladies cardiovasculaires, le cancer et beaucoup.
Également les pathologies mentales, hein, Stéphane Besançon. Alors, cette fameuse déclaration qui a été adoptée lors de la réunion d'hier, quelle en est la teneur ?
Alors, bon, il y a des points extrêmement politiques sur la nécessité des États de réellement mettre en place des politiques fortes pour à la fois la prévention et la prise en charge de ces maladies. Mais il y a eu des avancées aussi, notamment la mention des taxes, comme les taxes soda, comme les scores ou les labels pour mieux choisir son alimentation, un peu sur le modèle du Nutri-Score français. Il y a eu aussi quelques avancées sur la question des brevets, avec ce qu'on appelle la mention TRIPS, c'est un peu technique, mais qui veut dire que sur les brevets, il y a des négociations possibles pour pouvoir produire du générique. Donc, il y a quelques avancées de ce côté-là qui sont significatives.
Et quel regard vous portez sur cette déclaration, Stéphane ?
Alors, je pense que c'est un pas important parce qu'il y a une commission d'experts qui a rendu un rapport « It's time to deliver ». Donc, ça veut vraiment dire maintenant, il faut y aller, il faut faire des choses. L'autre chose aussi, c'est que pendant le sommet d'hier, plus de 30 chefs d'État étaient présents. Donc, c'est aussi un engagement très fort. Alors qu'à la dernière réunion de suivi, aucun chef d'État était présent. Maintenant, il reste des manques, notamment la société civile. On a beaucoup plaidoyé et on n'a pas gagné sur l'accès au traitement où cette déclaration reste un peu faible. Et il faut vraiment, vraiment, vraiment aller plus loin parce qu'on sait que les traitements sur les maladies non transmissibles coûtent très cher, que c'est une des problématiques majeures des patients. Et très clairement, sur ce point-là, le lobby du secteur privé aussi a été très fort et la déclaration est pas suffisante du tout sur ce point-là. Sur d'autres points, sur la prévention notamment, il y a des grandes avancées. Donc, je dirais que j'ai un avis qui est partagé avec certaines avancées, mais certaines choses qui manquent encore pour aller plus loin pour les patients.
Alors, des engagements qu'il faudra honorer, hein, qui dit déclaration, dit promesse. Quelle place, justement, pour contrôler l'application, le suivi de ces promesses pour la société civile ?
Alors là aussi, c'est une grande avancée puisque c'est pas encore tout à fait officiel, mais le directeur de l'OMS devrait l'annoncer. La commission société civile qui était là pour préparer ce sommet devrait être maintenue après le sommet justement pour avoir un rôle, un changement de rôle et au lieu d'être un rôle préparatoire, d'être un rôle de suivi et de pouvoir réinterroger les États et de pouvoir continuer le plaidoyer pour voir ce qui est réellement fait en dehors des déclarations en pratique.
Merci beaucoup Stéphane Besançon, je rappelle en ligne de New York. Hein. Vous êtes nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali et on va se retrouver lundi dans Priorité Santé pour votre chronique nutrition. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. Ophélie Lassen, Baptiste Madinier, Didier Bleu. Et lundi, dans Priorité Santé, nous allons parler des maladies de la petite enfance, otite, angine, varicelle. Ces maladies des premières années, on attend bien sûr vos questions à notre numéro, le 33 84 22 75 75. Et puis, les messages, hein, bien sûr, que vous pouvez aussi laisser sur notre page Facebook. On se retrouve lundi.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur Mon Bon Profil.